Le psaume 31, j'ai donné un titre à ce que nous allons partager ce soir. J'ai appelé ce psaume « Poison et vitamine » ou « Poison et antidote » aurait été plus en adéquation en lutte contre le poison. Mais nous allons effectivement voir au travers de ce psaume des poisons qui salissent, souillent, contaminent notre âme. Et nous verrons après quelques vitamines que le Seigneur, au contraire, veut que nous prenions en remplacement du poison pour que notre âme soit vivifiée. Alors, psaume 31, c'est un psaume de David et il écrit ceci. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai, par ta grâce, dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet de honte, d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Quand les méchants sont confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des filles de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen.
Amen.
Il est tortueux, je trouve, ce psaume. Hein, il est tantôt parlé d'allégresse, de joie, et puis il est capable dans ce même flot de paroles, de parler d'angoisse, de cœur brisé, de sentiments oubliés. Il va nous encourager à louer, à aimer le Seigneur. Et en même temps, il va exprimer un sentiment d'être abandonné, délaissé, d'être opprimé et dépassé par les ennemis. C'est vraiment un psaume qui peut résumer bien des situations que nous pouvons traverser dans la vie. Mais il y a quand même des éléments qui nous permettent aussi de comprendre ce qui peut effectivement semer la détresse, le chagrin, la misère dans l'âme de l'homme. Alors j'ai relevé 5 poisons qui sont capables de pourrir notre âme. 5 poisons qui sont capables de gâter notre âme. 5 éléments qui sont capables d'amener ce chagrin, ce fardeau, cette angoisse, cette oppression sur nos âmes. Et dont on ferait peut-être pas attention. Notamment au verset 7, il nous est parlé « Je hais ce qui s'attache à de vaines idoles. » Les idoles, voilà un poison. Voilà un poison. Dans le psaume 115, versets 4 à 7, il est écrit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent pas. Elles ont des pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son de leur gosier. » Et écoutez la suite. « Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. » Tous ceux qui se confient en elles. Et là, c'est incroyable. Parce qu'effectivement, dans les idoles, il y a, dans la première catégorie, vous savez, tous ces statues, ces médaillons, ces chaînettes, ces images. Alors, la plupart d'entre nous avons fait table rase avec tout ça. Mais faisons attention quand même de ne pas avoir encore, dans un coin de nos tiroirs, par souvenir, par émotion, un petit truc qu'on garderait. Oh, ce n'est rien, ce n'est qu'une petite image. Oh, c'est un petit médaillon, c'est en souvenir d'eux. Mais la Bible nous dit que ceux qui se confient en elle, ceux qui les fabriquent, on finira par devenir comme elles. Comment ça? Comme ces ouvrages, comme ces idoles? Oui. On va perdre toute sensibilité. On va perdre toute vision spirituelle. On va perdre tout ouïe spirituel. On va perdre toute activité spirituelle. On va perdre toute vigueur, toute énergie. Mais faisons attention, parce que ces idoles sont un poison pour notre âme. Parce que ces choses-là, qui paraissent complètement insignifiantes, c'est elles qui nous influencent. Comment ça se fait? Parce que c'est un principe spirituel. Derrière ces images, bien sûr, l'image n'est rien, mais il y a une réalité spirituelle qui influence notre âme. Mais non, ce n'est que des idoles, ce n'est que des représentations. Mais ces représentations-là, si vous les gardez chez vous, c'est bien qu'il y a un attachement dans votre cœur. Alors, dans un premier temps, évidemment, Dieu se moque de cette superstition. Bien sûr, Dieu se moque de ces idoles qui créent ce lien de superstition, comme si derrière elles, il y avait quelque chose. Dieu dit, il n'y a rien. Elles sont muettes, elles sont sourdes, elles n'entendent pas, elles sont incapables de vous aider. Mais il nous prévient aussi, faites attention, parce que si quelque part vous y êtes attaché, vous deviendrez comme elles. Et combien d'hommes et de femmes sur cette terre cherchent à adorer Dieu, cherchent un contact avec Dieu, et passent par ces images, par ces idoles, par ces médaillons, et finissent par se dire, mais il est où Dieu? Parce qu'ils finissent par être comme elles. Insipide, sans vie, mort. Oui, l'idolâtrie par ses statues est un vrai poison. Mais l'idolâtrie, ce n'est pas que des statuettes, ce n'est pas que des médaillons, ce n'est pas que des images. Jésus nous prévient. Matthieu chapitre 6, verset 24. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et maman, c'était la représentation, la divinité de l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu, le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous invite à le connaître. Et le matérialisme, il n'est pas possible. Soit on aime l'un et on méprise l'autre, ou alors on s'attache, on met notre cœur, notre attente dans le matérialisme, dans l'argent, et influence, pollution de notre cœur, de notre âme, nous finissons par nous éloigner de Dieu. Mais c'est pas possible de concilier les deux, c'est pas possible. Il n'y a pas de polygamie spirituelle à ce moment-là. Il faut faire un choix. Ah mais oui, mais quand même. Il n'y a pas de quand même. Si on décide d'affectionner notre cœur au matérialisme, peut-être qu'à vous, humainement, intellectuellement, ça vous paraît complètement logique, normal. C'est du bon sens. Faites. Mais voilà un poison dans votre âme qui, doucement mais sûrement, créera une séparation entre vous et Dieu. Notre premier besoin n'est pas matériel. Notre premier besoin est spirituel. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Et le problème de l'homme, c'est de déplacer l'ordre des priorités. Il y a un exemple comme ça dans la Bible qui se trouve dans Luc chapitre 12. Et un homme avait fait beaucoup de récoltes et sa moisson avait été vraiment abondante. Ah, c'est la bénédiction, c'est l'abondance. Alors il s'est dit, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ah, bah si, je sais ce que je vais faire. Je vais me fabriquer des entrepôts et là, je vais amasser tout ça. Et la folie de cet homme, ce n'est pas d'avoir le bon sens. La folie de cet homme, c'est commencer à se dire au verset 19, « Je dirai à mon âme » Ça vous arrive de vous parler à vous-même ? Je dirai à mon âme, oh, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? La folie de cet homme, ce n'était pas d'être quelqu'un de prévisible, c'est bien. Il n'est pas non plus gaspillé, jeté. Mais la folie de cet homme, c'est de croire que le repos de son âme passerait par l'abondance de ses biens. Ah, c'est bon, je suis plein d'audace, mon âme peut être tranquille, mais folie de folie. L'âme n'est pas tranquille par le matérialisme, l'âme n'est pas tranquille par le confort, l'âme n'est pas tranquille par le compte en banque, au contraire. Beaucoup de soucis. Faisons attention. On ne peut pas servir l'un et l'autre. Bien sûr qu'on a besoin de quelques sous pour vivre. Et merci Seigneur s'il nous permet que cet argent nous éloigne des soucis. Mais il y a un venin, il y a un poison. La Bible nous prévient que l'amour de l'argent provoque beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. Et ça, c'est une forme d'idolâtrie. Paul dira, l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'on s'attache à ces choses-là. On croit que ça satisfait. On croit que l'argent va répondre à tout. On croit que l'argent est la solution. On croit que l'argent va nous apporter le repos de la mais folie de folie. C'est un mensonge sournois qui nous éloigne du vrai Dieu. Une autre idolâtrie, aussi très moderne, ça a été d'ailleurs la première idolâtrie qui est venue sur cette terre, avant les statues. Nous-mêmes. Oui, vous pouvez être votre propre idole. Et pourquoi est-ce que je dis que ça a été la première séduction, la première des idolâtries ? Parce que dans le jardin d'Éden, C'est exactement par ces mots que le diable a cherché à tenter Adam et Ève. Mais Dieu sait, disait le serpent à Ève en Genèse chapitre 3 verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Voilà la séduction. Vous serez comme des dieux. Mais si nous sommes comme Dieu, nous n'avons plus besoin de lui. Si nous sommes comme lui, mais on est libre, on est d'égalité à d'égalité. Si je suis comme lui, mais il n'a plus de conseils à me donner. Si je suis comme lui, mais moi je sais aussi bien que toi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre toi? Et voilà le venin de cette idolâtrie, de soi, de soi-même, de notre personne, qui nous emmène directement à l'indépendance de Dieu. Parce que si nous sommes notre propre idole, notre propre référence, notre propre maître, notre propre point d'intérêt, et l'unique point d'intérêt, de satisfaction, alors nous créons une indépendance à l'égard de Dieu. Et la société voudrait tellement tout fabriquer sans Dieu. Surtout pas de Dieu. Pas de Dieu dans l'éducation, pas de Dieu dans les projets. Pas prier, faut pas prier en public. Surtout pas dans notre société laïque. On rejette Dieu. On veut bien faire plein de choses, mais sans lui. Et ça, c'est un venin terrible. C'est un venin terrible. Car un homme, une femme, ne peut pas vivre dignement, ne peut pas s'épanouir sans Dieu. Dieu nous a créés. Qui pourrait imaginer un seul instant vivre loin de son Créateur? Ça n'a pas de sens. Quel enfant peut être heureux sur cette terre sans son père et sans sa mère à ses côtés, qui sont la source de la vie, qui l'ont amené à la vie? Nous ne pouvons pas, en tant que être individu, vivre indépendamment de Dieu. Ce n'est pas possible. Une deuxième source de poison que l'on peut lire au verset 11. David écrit « Ma force est épuisée, mon énergie est épuisée, ma force intérieure est épuisée à cause de mon iniquité. » L'iniquité, ça veut dire à cause de mon injustice. Peut-être avez-vous d'autres mots tels que le mot « à cause de mes fautes » ou « à cause de mes péchés ». Ça, c'est quand même intéressant de réaliser une chose. Ma force, mon énergie, mon dynamisme, mon enthousiasme, mon envie de vivre, tout ça s'est épuisé, c'est à zéro. J'ai pas envie, je suis mort intérieurement à cause de mon injustice. Ce qui est heureux dans cette situation, c'est que David a pris conscience de l'origine de son mal. Mais il est important de réaliser qu'effectivement, s'il parle d'injustice, soyons toujours conscients qu'il y a une justice. Oh, bien sûr, elle n'est pas sur cette terre. On le dit souvent, il n'y a pas de justice sur cette terre. C'est vrai, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de juste justice sur cette terre. Mais il y a une vraie justice. Et elle vient de Dieu. Au psaume 32, vous pourrez le lire à la maison, c'est le psaume d'après. David explique le processus qui s'est passé dans son âme par rapport à ce péché. Il a dit, tant que je me suis tu, tant que j'ai gardé le silence, mes os se consumaient au-dedans de moi. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main, là il parle de la main de Dieu, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Amen.
Amen.
Et ça, c'est important de réaliser que quand nous péchons, quand nous faisons ce qui est injuste, quand nous n'agissons pas selon la justice de Dieu, ce n'est pas seulement contre la morale que nous avons un problème, mais c'est contre Dieu lui-même. Il le dit, ta main s'apesantissait sur moi. Et quand vous péchez, amis, vous êtes en procès avec Dieu, vous êtes en bras de fer avec Dieu, vous êtes en résistance avec Dieu. Mais là, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Mais qui va gagner à votre avis? Vous? avec votre justice déprimée ou la puissance de Dieu? Le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre mot. C'est cette mort intérieure, ce non-sens, cette dégradation, cette perte de vigueur. Mais l'antidote, c'est la repentance. Amen. J'ai confessé. Et tant que je me suis tu, tant que je n'ai rien dit, tant que j'ai enfoui ça en moi-même, tant que je n'ai pas osé mettre les mots sur ma misère, alors j'ai dépérissé intérieurement. Mais, lorsque David a accepté de reconnaître son péché, de le confesser à Dieu, alors Dieu est fidèle et bon pour lui effacer, pour lui ôter la peine de son péché. Combien il est bon, notre Dieu. Combien sa grâce est magnifique et splendide. Combien sa générosité est sans limite. Et combien est grande la joie de celui qui reçoit le pardon de Dieu. Quel affranchissement, quelle liberté, quelle légèreté rentre dans notre âme. Pourquoi laisser encore le poison du péché, de l'injustice? Pourquoi continuer à justifier nos erreurs et nos manières de faire? Il n'y a rien à gagner, car devant Dieu, nous sommes forcément perdants avec le péché. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'il est celui qui veut nous pardonner et nous effacer la peine de nos péchés. Alléluia.
Amen.
Le troisième poison que l'on peut distinguer dans ce psaume se retrouve plusieurs fois, et notamment au verset 14 et au verset 19. Il est écrit « J'apprends les mauvais propos de plusieurs ». Et au verset 19, il va parler des lèvres menteuses qui parlent avec audace, avec arrogance et avec dédain. Voilà un autre poison dont nous sommes une fois de plus les acteurs principaux. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourtant, certains pourraient dire « Ah oui, mais moi ça me défoule de parler. Oh, moi ça me défoule. Ah, moi ça me permet de sortir tout ce qu'il y a de mauvais en moi. » Mais Jésus a dit complètement l'inverse. Il a dit « Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. » Ce n'est pas les aliments, ce n'est pas la respiration. Oh oui, malgré la pollution, oui, mais la pollution va seulement polluer votre corps, mais pas votre âme. Ah oui, mais il ne faut pas manger telle viande, mais votre viande, c'est pareil, elle va aller dans le ventre et puis après, elle ira dans un lieu obscur. Jésus, quand il dit c'est ce qui sort de votre bouche qui souille l'âme, il nous exprime bien là que ce n'est pas seulement la pensée. Il dit bien que par notre parole, par les mots qui sortent de nous-mêmes, on se pollue nous-mêmes. C'est comme si on s'arrosait nous-mêmes de cet esprit qui déjà était en nous, qui bagarrait, mais nous pourrions avoir la force de retenir ça. Mais si on le laisse sortir de notre bouche, alors on lui donne vie, on lui donne corps, on lui donne autorité. Et c'est là qu'il faut faire attention. Nous devons maîtriser. Lorsque nos enfants ont un mauvais comportement, est-ce que vous dites « Oh bah, ça le défoule, le mal qu'il est en train de faire est en train de sortir de lui ?» Pas du tout, vous le reprenez au plus tôt. Parce que si vous le laissez faire un mauvais comportement, vous lui donnez l'habitude. Et après c'est le caractère. Et après ce sera bien trop tard pour rectifier la chose. Lorsque vous voyez une mauvaise herbe, vous dites pas « On va la laisser pousser et puis une fois qu'elle va grandir, elle va partir d'elle-même. » C'est faux. Toutes nos plaintes, nos critiques, toute notre amertume, tout ce qui sort de notre bouche, mais que l'on sait être mauvais. Ne croyons pas que c'est libérateur. Devant Dieu, oui, pour confesser notre misère, oui. Mais si c'est de notre cœur que sort tout ça, nous sommes tout simplement en train de donner un engrais à toutes ces pensées par nos propres paroles. Et ne minimisons jamais l'effet du mensonge. Apocalypse chapitre 5, il me semble. Pardonnez-moi. Chapitre 21. Dieu prévient que tous les menteurs seront jugés. Tous. Non ! C'est un petit mensonge. Ah bon ? Parce qu'il y a petit mensonge et grand mensonge ? Il y a petit poison et grand poison ? Il y a poison, c'est tout. Est-ce que quelqu'un préfère du cyanure à la morora ici? Il y a quelqu'un qui veut essayer, faire la différence entre les deux, voir lequel est le plus grand et le plus petit des poisons? Mensonge, c'est mensonge. Si on s'habitue au mensonge, si nous trouvons une solution dans le mensonge. Oui, mais non, mais c'est pour la paix, c'est pour trouver une solution. Ce n'est pas une solution, c'est un mensonge, c'est un poison que tu es en train de mettre dans ta propre eau. Qui veut un seul gramme? Un petit gramme, c'est rien du tout. Un petit gramme de cyanure dans vos steaks hachés, juste un petit gramme, c'est rien.
Ce sera suffisant pour juste vous nettoyer les boyaux.
Ne minimisons jamais le péché du mensonge. Jacques, chapitre 1, verset 26, dit « Si quelqu'un croit être religieux, si quelqu'un croit être quelqu'un de bien dans sa religion, si quelqu'un croit qu'il est conforme à la loi de Dieu, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Nous devons apprendre à tenir notre langue en bride. C'est vrai qu'il y a des fois, on aurait envie. C'est vrai que de temps en temps, ça bouillonne. C'est vrai que de temps en temps, la pression est forte. C'est vrai que de temps en temps, il vaut mieux serrer les dents. Parce que si on ouvrait juste un petit peu, ça partirait tout seul. C'est ce qui fait la maturité de quelques-uns. Être capable de tenir sa langue en bride. Mais nous devons apprendre cela. Parce que lorsque nous laissons toute notre amertume, toutes nos plaintes, toute notre critique, tous nos esprits de jugement, de dénigrement, quand nous laissons les insultes, que lorsque nous laissons toute notre colère sortir de notre bouche, alors nous laissons le poison toujours davantage infester notre âme, qui nous entraînera à la détresse, à la douleur, à la déception, à la misère. Le quatrième poison que j'ai relevé, et dont on l'évoque peu, mais au verset 23, il est dit: « Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. » Voilà que rapidement, dans sa précipitation, il a eu un mauvais jugement sur la situation. Il croyait que Dieu l'avait abandonné. Ne faites jamais rien par cette précipitation. Combien de déceptions par précipitation? Combien de mauvais choix par précipitation? Combien de regrets? Oh là là, je suis allé trop vite. Combien de maladresses par précipitation? On croit qu'en se dépêchant, on va gagner du temps. Et une fois qu'on est arrivé, ah mince, j'ai oublié ça, n'est-ce pas? La précipitation n'est jamais bonne. La précipitation est source de déception. Proverbe chapitre 21, verset 5, nous dit que celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Mais celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Il faut que nous apprenions à ne point être précipités, parce que au moins, ça nous pose, on a le temps de réfléchir, mais on a aussi le temps de prier. Quelle que soit la situation, quel que soit le choix, quelle que soit la circonstance, est-ce que prier cela vous demande 3 heures? Bien sûr que non. Mais quand vous êtes dans une situation où vous devriez répondre avec précipitation, posez-vous tout de suite, et dites: Seigneur, viens m'aider, s'il te plaît. Et là, engagez-vous, réfléchissez. La précipitation n'est jamais bonne. Ne faites rien sur un coup de tête. Ne faites rien sur un coup de cœur non plus. Ne faites rien sur un coup de colère. Ne faites rien sur un coup d'élan. Ne faites rien parce que la pression vous y pousse. Non! Ne cédez jamais au coup, qu'il soit bon ou mauvais. La précipitation est toujours mauvaise conseillère, toujours. Et elle nous emmène toujours après au regret. Mais après, c'est trop tard, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il y a les larmes, c'est là qu'il y a les chagrins. C'est là qu'on se dit: ah, si j'avais su. Le cinquième poison, et ce sera le dernier poison que nous verrons à la fin du verset 24, il est écrit que Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Jacques nous le dit au chapitre 4, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
L'orgueil est un terrible poison. L'orgueil, c'est le fait d'avoir une trop haute opinion de soi-même par rapport aux autres. Et ça gangrène tout, ça pollue tout. Ça nous empêche de nous remettre en cause. Ça nous empêche de regarder l'autre comme il est réellement. Parce qu'on est toujours en train de se comparer à lui. On n'accepte pas une parole qui pourrait, même de Dieu, nous remettre en cause ou nous appeler au changement. L'orgueil nous tient à distance des autres et nous étouffe dans l'amour. L'orgueil nous empêche d'avoir cette humilité qui est le seul moyen de faire des progrès. Et si vous n'avez plus d'amour, et si vous ne faites plus de progrès, vous allez vous dessécher. Vous finirez par être seul. Votre âme sera anesthésiée, froide, insensible. Vous chercherez de l'aide auprès de Dieu, mais Dieu vous dit qu'il résiste, il vous résiste. L'orgueil est véritablement un poison. Je voudrais juste maintenant citer les vitamines que le Seigneur nous donne dans ce passage-là. Il nous est parlé au verset 2 et 3. Je cherche en toi mon refuge. Je trouve mon salut. Au verset 18, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Ce qui va faire du bien à votre âme. Ce qui va vitaliser votre âme. Ce qui va donner de la joie à votre âme. Ce qui va vous redonner de la vigueur et de l'autorité, de l'envie et de la joie. Commencera par la piété. Par ce désir de chercher Dieu, par ce désir de se rapprocher de lui, par ce désir de connaître cette intimité, par ce désir de s'attacher à Dieu, par ce désir-là, comme il est dit un peu plus loin, d'aimer Dieu, comme il est écrit au verset 24, « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. » Le commencement de votre vie, la source de votre âme, l'énergie de votre force intérieure ne sera pas en vous. Elle sera dans votre attachement à Dieu. Aimez-vous Dieu ? La question, elle est toute simple. Aimez-vous Dieu ? Regardez tout ce qu'on est capable de faire pour quelque chose que l'on aime. Si vous aimez le sport, si vous aimez le foot, si vous aimez une émission télé, si vous aimez la cuisine, si vous aimez quelque chose comme ça, si vous aimez la musique, regardez l'énergie, le temps, l'enthousiasme que l'on trouve. Et il y a quelque chose qui m'a toujours fait bizarre dans mon cœur. De voir des hommes, des femmes qui disent prier, qui se disent s'attacher à Dieu, qui se disent persévérer en Dieu, dans les chemins de Dieu. Et quand vous parlez avec eux des choses de Dieu, ils disent oui, ouais, ouais, ils sont comme ça, ils sont un petit peu mollassons, ils répondent bien. Mais dès que vous leur parlez foot, oh ah, les yeux brillent. Le corps se ragaillardit. Non, vous les sentez prêts à aller à gauche, à droite, à faire 200, 300 km pour voir le match, pour rencontrer telle personne, tel joueur. Et là, on se dit, mais là, vous savez ce qu'il aime. Il aime le foot. Bien plus que les choses de Dieu. Quand on aime quelque chose, alors ça crée du dynamisme, ça crée de l'enthousiasme, ça crée de la force. À part que l'amour des choses du monde fait qu'on devienne comme elle, ce qu'on avait avec l'idolâtrie. Le seul qui est capable de nous communiquer la vraie vie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est pour ça que, à ce verset 24, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. C'est déterminant. Si vous voulez de la vitamine, de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'autorité dans votre vie, aimez l'Éternel, ayez de la piété. Attachez-vous à la prière, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Une autre vitamine que l'on retrouve au verset 6, c'est ces expressions qui disent « Je remets mon esprit entre tes mains. » Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Au verset 15, « Mais en toi je me confie. » Je dis « Tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Amis,
si vous avez besoin de vitamines spirituelles, alors apprenez cet abandon à Dieu, cette confiance totale, ce lâcher prise, cette libération. Imaginez que vous êtes en haut d'une falaise, que derrière il y a du terre-plein, mais que devant il n'y a rien du tout, et que vous jetiez en avant comme ça. Vous voyez pas le fond, mais vous sautez. Ayez ce lâcher prise avec Dieu. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient de vous jeter dans les bras du Seigneur? Qu'est-ce qui vous retient d'avoir ce lâcher prise? Qu'est-ce qui vous retient de pouvoir dire « Mes destinées sont dans tes mains » De temps en temps, on dit ça « Oh Seigneur, mes destinées sont dans tes mains » Et puis après, on calcule tout, on mesure tout, et puis on veut tout retenir, et puis on veut pas faire trop de foi, pas trop d'efforts, on veut pas qu'on ait trop peur. Mais bien sûr que oui, que lâcher prise, c'est prendre des risques avec le Seigneur. C'est s'abandonner. C'est remettre notre destinée au Seigneur sans que nous cherchions à les maîtriser ni à les contrôler.
Il y a beaucoup de soucis et beaucoup d'inquiétudes dans la vie de ceux qui ne s'abandonnent pas entièrement au Seigneur. Et Jésus nous a prévenus. Qui va rallonger sa vie avec d'une coudée avec ses inquiétudes? Qui va trouver de bonnes solutions avec ses soucis? Qui? Il y a tant de temps des hommes, des âmes qui manquent de vitalité spirituelle. Parce qu'ils viennent à l'église, ils aiment le Seigneur, mais ils ne se sont pas entièrement abandonnés à lui. Ils s'accrochent à leurs soucis, à leurs souvenirs, à leurs préoccupations. Abandonnez, délaissez, laissez à la croix, abandonnez au Seigneur vos soucis, vos fardeaux. Ça ne sert à rien de les porter. Vous ne faites que vous écraser. Oh, mais j'aime le Seigneur, mais oui, tu aimes le Seigneur, mais tu portes toi-même ce que le Seigneur a porté à la croix. Tu te fatigues, mon frère, tu te fatigues, ma sœur. Je remets mon esprit. Et ça, c'est une très belle phrase, une belle prière à faire à la maison. Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Quand vous avez un fardeau, un souci, Seigneur, je te remets mon esprit. Seigneur, j'ai ce poids, j'ai cette préoccupation. Seigneur, je te remets mon esprit. Non point à moi la capacité, mais à toi, toi seul, tu es celui qui me délivrera. Une autre vitamine à prendre, et qui se trouve au verset 20, il y a là deux vitamines essentielles. La première dans ce verset dit « Combien est grande ta bonté ?» Et pourtant, en même temps qu'il dit ça au verset 20, avant, il est en train de crier sa détresse. Il est en train de parler de ses ennemis. Il est en train de parler de son oppression. Il est en train de parler de son chagrin. Il est en train de parler de sa détresse. On va dire, mais t'es complètement fou. Tu sais plus ce que tu dis. Ami, si votre âme est accablée, comme on l'a dit tout à l'heure, cela ne sert à rien de faire sortir nos plaintes. Ce qui vous donnera de l'énergie, ce qui vous donnera de la vitamine, c'est de proclamer la bonté de Dieu. Ne dites pas que vous avez de grands problèmes, dites que vous avez un grand
Dieu.
Levez vos yeux au-dessus des montagnes. Proclamez la bonté, la fidélité de Dieu. Proclamez son autorité. La foi, c'est celui qui voit au-delà des circonstances. La foi, c'est celui qui voit au-delà de la vallée de l'ombre de la mort. La foi, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. La foi, c'est celui qui voit la délivrance. La foi, c'est celui qui sait que mon Rédempteur est vivant, comme le dira Job, alors qu'il est dans une situation au plus bas, et personne dans cette maison de prière, ne connaît la détresse qu'a pu connaître Job. Mais il le dira, je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier. Rien ne pourra être de bon de sortir de nos plaintes, de nos gémissements, de nos accablements. Pas la peine de dépeindre le visage de nos ennemis. Mais proclamez la bonté de Dieu, proclamez la grandeur de Dieu, proclamez l'autorité de Dieu, proclamez l'œuvre que Jésus a faite à la croix, là où il a dépouillé tous nos ennemis, là où vous sentez que l'oppression est forte, proclamez que Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. La bonté, proclamer la grandeur de Dieu. Bien sûr, je le dis tout de suite, peut-être que ça ne changera pas tout de suite la circonstance.
mais ce sera une vitamine pour votre âme. Peut-être que vous continuerez comme David à connaître des années de souffrance. Mais qu'est-ce qui vaut mieux ? Connaître des années de souffrance plus un âme abattue ou des années de souffrance et un cœur renouvelé ? C'est à vous de choisir. Mais en proclamant la bonté de Dieu, le Seigneur est celui qui vous donnera la vitamine pour votre être intérieur. Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Et ce sera notre dernière vitamine, ceux qui te craignent. Ça ne veut pas dire ceux qui vivent dans la peur de Dieu, évidemment, mais ceux qui craignent de mal faire. Ceux qui craignent justement de ne pas répondre à la justice de Dieu. Ceux qui ont plus la crainte de décevoir Dieu que les hommes. Il nous est tellement important, amis, de réaliser que si le salaire du péché, c'est la mort, l'obéissance précède la bénédiction. La crainte de Dieu. Seigneur, je veux faire ce qui t'est agréable. Seigneur, je veux obéir à ta volonté. Nous avons un privilège extraordinaire. C'est que dans notre beau pays, vous pouvez trouver la Bible partout. Vous pouvez la lire. Vous pouvez même l'entendre quand on n'a plus les yeux qui suffisent. Mais on peut avoir sans du tout avoir la crainte.
Ouais, je sais.
Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait ce désir de la mettre en pratique, de vivre ce qui est écrit, d'avoir ce saint tremblement, cette sainte crainte. Quand il n'y a plus ce désir de plaire à Dieu, alors notre âme s'endort. Quand il n'y a plus cette sainte crainte, alors, reconnaissons-le, nous sommes tellement plus... nous laissons plus facilement un accès au péché, au compromis, à la paresse spirituelle. Mais ceux qui craignent l'Éternel, la Bible nous dit que Dieu leur réserve sa bonté. Amen. Alors que, au travers de ce psaume, que nous pourrons relire plusieurs fois à la maison et y trouver encore d'autres poisons, que nous apprenions à nous préserver du poison et que nous sachions renouveler ces vitamines afin que notre âme vive. Amen. Malgré l'oppression, malgré la détresse, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des souffrances. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'il est celui qui peut fortifier notre être intérieur. Amen.